Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur libre préféré, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et vous pouvez nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 7 mai 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, son délégué général. Alors le site web de l'April c'est april.org. Et vous y retrouvez déjà une page consacrée à l'émission avec un certain nombre de références que nous allons citer au cours de l'émission. Et évidemment, les références seront mises à jour après l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours, à la fois sur ce qui vous a plu, des questions, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes avec la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. Chronique intitulée « Pépites libres ». Alors, normalement, Jean-Christophe est avec nous par téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
Alors on se retrouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les licences libres avec Mélanie Clément-Fontaine et Olivier Hugo que je présenterai plus en détail tout à l'heure. En fin d'émission, nous aurons la chronique d'Isabella Vanni, le libre fait sa com avec une interview téléphonique de notre graphiste bénévole préféré Antoine Bardelli. Et à la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick.
Bonjour tout le monde.
Alors tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Becquet. Donc Jean-Christophe est président de l'April. Sa chronique s'intitule « Pépites libres ». Donc Jean-Christophe nous présente dans le cadre de ses chroniques une ressource disponible sous licence libre. Alors vous apprendrez tout à l'heure ce que c'est qu'une licence libre plus en détail. Donc texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public via une licence libre. Alors, quel sujet souhaites-tu aborder aujourd'hui dans le cadre de cette chronique, Jean-Christophe ?
Donc aujourd'hui, je propose de vous parler des ressources libres pour la formation en ligne. En effet, l'offre de formation en ligne s'est considérablement développée ces dernières années, notamment à travers les MOOC pour Massive Open Online Course ou CLOM en français, les cours en ligne ouverts massifs. Donc plusieurs plateformes proposent des cours en ligne, souvent gratuits et ouverts à tous, mais pas libres. Je veux dire par là que la licence appliquée aux ressources pédagogiques qui composent la formation n'est pas une licence libre. On ne peut donc suivre la formation, mais on ne peut pas réutiliser librement les textes, les illustrations, les enregistrements audio-vidéo pour partager à notre tour ce que l'on a appris. Prenons par exemple la plateforme FunMOOC, qui héberge des formations en ligne pour plus de 50 établissements d'enseignement supérieur en France et dans le monde. Lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2013, cette plateforme affiche l'objectif de diffuser la connaissance au plus grand nombre. On peut s'y former en mathématiques, en physique, en biologie, en médecine, en linguistique, en économie, en informatique, etc. Leur site fait état d'un million d'inscriptions à 150 cours en ligne. Les briques qui composent ces cours sont le plus souvent sous licence Creative Commons. Mais contrairement à une idée reçue, toutes les licences Creative Commons ne sont pas libres. En l'occurrence, la licence Creative Commons by NCND, utilisée pour la plupart des ressources, n'est pas libre. D'abord, elle interdit l'utilisation commerciale, NC, ce qui est contraire à la liberté de copier et de réutiliser sans aucune restriction et pour quelque usage que ce soit. Ensuite, elle interdit la modification, ND, une autre liberté fondamentale héritée du mouvement pour le logiciel libre. Pour bien comprendre, on pourra lire l'excellent article d'Alexis Kaufmann sur le Framablog. Dis papa, c'est quoi une œuvre culturelle libre ? Je donne la référence de cet article sur la page de l'émission. C'est donc assez naturellement que je reprendrai ici l'appel de l'April. Libérez vos œuvres, publiez sous licence libre. Pour libérer vos savoirs, optez pour une licence libre. Par exemple, la licence Creative Commons by SA. La clause de partage à l'identique, SA, permet la réutilisation et la modification de votre travail, mais vous assure en retour de profiter des versions modifiées sous la même licence et donc avec les mêmes libertés. Dans la philosophie du libre, c'est ce que l'on appelle le copyleft. Et comme dit le juriste Evan Moglen, cette hérédité de la licence crée un pot commun auquel chacun peut ajouter quelque chose, mais duquel personne ne peut rien retirer. Mais je veux surtout, dans cette chronique, mettre en avant des ressources libres. Je vous propose donc de terminer avec une sélection de formations en ligne pour lesquelles les auteurs ont fait le choix d'une licence libre. Commençons par nos amis de Wikimedia France, avec le Wikimook, une formation en ligne qui se propose de vous apprendre à contribuer sur Wikipédia. Cette formation est disponible sous licence libre, Creative Commons by SA, la même que pour l'encyclopédie libre. On trouve aussi une formation « Apprendre à coder avec Python » de l'Université libre de Bruxelles, sous la même licence. Ou encore, « S'initier à l'enseignement en sciences du numérique et technologie » proposé sous licence Creative Commons by par l'INRIA pour les enseignants. Il n'est pas surprenant que les auteurs qui partagent leurs cours sous licence libre exercent dans des domaines liés à l'informatique. En effet, historiquement, les licences libres ont été inventées pour les logiciels avant d'être adaptées pour s'appliquer à d'autres ressources comme les textes, la musique, les images ou la vidéo, objet de cette chronique Pépites libres. Il en existe sûrement d'autres, mais le site FunMook ne permet pas de faire une recherche par licence. Signalons enfin qu'on trouve d'autres plateformes de formation sous licence libre. C'est le cas par exemple de Tela Formation, de l'association Tela Botanica, qui vous propose d'apprendre la botanique et qui a fait le choix de la licence libre Creative Commons by SA.
Écoute, merci Jean-Christophe. En plus, c'est une excellente introduction pour le sujet d'après. Tu as cité des mots qui seront encore plus détaillés, notamment la notion de copyleft ou gauche d'auteur. Tu as cité Eben Moglen, qui est un juriste qui a beaucoup travaillé avec la Fondation pour le logiciel libre. Juste peut-être quelques précisions que je notais en t'entendant. Tu venais de parler de l'absence d'un moteur de recherche sur les licences. Ça me fait penser que tu as sans doute vu l'annonce de Creative Commons qui vient de mettre en version, on va dire, en production, son outil de recherche d'images libres. Et il y a un critère de choix par rapport aux licences. Donc, je crois de mémoire, il y a 300 millions d'images maintenant. Donc, c'est sur le site de Creative Commons. Donc, c'est commons.org. Il y a le moteur de recherche. Donc, vous pouvez faire des recherches d'images par type d'image et par licence. Tu as parlé de Wikipédia. J'invite les personnes qui nous écoutent à réécouter les deux émissions que nous avons déjà consacrées au sujet de Wikipédia récemment. Donc, vous les trouvez sur le site de l'April. Ah, peut-être pour préciser sur le fonctionnement des MOOC, qu'il nous reste un petit peu de temps. Donc, c'est des cours en ligne massifs, donc avec beaucoup de personnes. Et le principal outil pour contribuer à ces cours, pour participer, c'est Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas des cours en présentiel.
Oui, tout à fait. Il s'agit de cours en ligne. Donc, en fait, on s'inscrit sur une plateforme et on a accès à des ressources éditorialisées. Donc, souvent, un support au format texte, illustré par des images, des photos. Souvent intercalé dans ce cours, soit des interventions sous forme audio et souvent vidéo. Donc typiquement, un enseignant qui fait son cours en amphi, on le filme et puis on met à disposition la vidéo. Donc souvent, c'est le cas de la plateforme FunMook, ces formations en ligne sont d'accès gratuit, ouvert à tous. On peut s'inscrire très simplement, il suffit d'une adresse email pour se créer un compte. On ne peut pas ensuite réutiliser les ressources qui constituent ces formations. Ce qui me semble extrêmement dommage parce qu'on peut penser que la volonté de la plupart des formateurs, enseignants et structures d'enseignement qui ont ouvert un cours sur cette plateforme, que leur volonté c'est de toucher le plus grand nombre possible de personnes. Et en optant pour une licence qui n'est pas libre, avec donc la restriction des utilisations commerciales, la restriction des modifications, eh bien, on se prive d'un impact supplémentaire de ces formations, qui serait que, par exemple, je veux composer une formation dans laquelle je vais emprunter des ressources dans différentes formations existantes en citant à chaque fois les auteurs d'origine pour donc éditorialiser un contenu adapté, par exemple, à un public particulier ou à un objectif précis de formation. Eh bien, avec ces licences, je ne peux pas le faire. Ou en tout cas, j'aurais des restrictions. Et donc, c'est pour ça que vraiment dans le monde de l'enseignement et de la formation, où on est dans un objectif de partage des savoirs, les licences libres sont particulièrement adaptées pour les contenus et les ressources pédagogiques.
Tout à fait. Alors, pour finir, tu as parlé des ressources. On va peut-être dire un mot des plateformes qui sont derrière. Donc, la plupart sont des plateformes qui sont privatrices. Hein. Par contre, il existe des plateformes libres. Alors, je ne sais pas si tu comptais en citer une ou si je le fais.
Oui, on peut parler d'une plateforme comme Moodle, par exemple. Est-ce que c'est à celle-là que tu pensais ?
Alors, effectivement, il y a Moodle. Je pensais aussi à Chamilo, qui est une plateforme libre. Et il faut donc préciser que ces plateformes, donc là, qui permettent d'héberger des MOOC, hein, là, on ne parle pas de la ressource, mais de la plateforme logicielle pour héberger les MOOC, donc sont développées sous licence libre pour donner, en fait, aux personnes et organisations la possibilité d'organiser des MOOC, notamment à un coût accessible, et à la fois dans un esprit, on va dire, de responsabilité sociale et de développement d'un patrimoine commun et public. Tout en étant des outils de qualité, hein. C'est pas parce que c'est libre que c'est pas de qualité, mais c'est des fois des outils qui sont même supérieurs en termes de fonctionnalité à des outils privateurs. Donc voilà, je voulais citer donc, effectivement Moodle, Chamilo, il en existe sans doute d'autres, et en tout cas ça permet à des gens qui veulent mettre en place des MOOC, là, donc des formations, d'utiliser des outils libres de A à Z, à la fois en termes plateforme et en termes ressources.
Tout à fait. Et comme ces plateformes sont, les logiciels qui font fonctionner ces plateformes sont développés selon les modèles des développeurs de logiciels libres, souvent il y a une meilleure prise en compte des attentes des enseignants, des formateurs et des organismes de formation qui veulent publier des MOOC. Donc effectivement, c'est des très bons outils. Et ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir à la fin des chaînes complètes de plateformes qui serait mise en œuvre avec des logiciels libres, dont les ressources seraient sous licence libre. Et donc là, on serait complètement dans l'esprit de la chronique de PIC Libre et de ce que promeut l'April.
Tout à fait. Alors, pour relayer une sorte de question sur le salon web de la radio, par qui sont financés les divers MOOC, pour répondre très rapidement, évidemment, les MOOC privés sont financés par des structures privées, mais par contre, évidemment, quand c'est financé par nos impôts, donc par exemple des MOOC de collectivités publiques, collectivités locales ou autres, naturellement, comme c'est des impôts, c'est de l'argent public, le choix à la fois de la plateforme logicielle libre et des ressources libres devrait s'imposer. Jean-Christophe ?
Oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Dans le cas de la plateforme MOOC, par exemple, donc comme je l'ai dit, c'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur qui met à disposition donc cette plateforme pour une cinquantaine d'organismes, écoles et universités en France et dans le monde. Et donc, bon, il y a un intérêt à cette plateforme, c'est la mutualisation de la ressource logicielle, l'hébergement. Mais bien sûr, s'agissant d'outils financés avec de l'argent public, on ne peut que souhaiter que ce soit fait avec des logiciels libres et que les ressources soient sous licence libre.
Ben écoute, merci Jean-Christophe, je te remercie pour cette chronique qui sert en plus d'excellente introduction au sujet suivant. Ben écoute, on va se retrouver le mois prochain donc pour une prochaine chronique Pépite Libre. Nous te souhaitons de passer une agréable journée.
Entendu, merci, bonne suite d'émission et au mois prochain.
Merci, à bientôt. Alors, nous allons faire une pause musicale, évidemment une pause musicale libre. Donc le morceau s'appelle Summer Lies par Texas Barbudos et on se retrouve juste après.
Cause commune. Thank you.
Par Texas Barbudos en licence Creative Commons partage à l'identique. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions de licence libre pour les MOOC, donc la formation en ligne massive. Et bien on va poursuivre avec les licences libres, mais justement on va rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer ce que sont ces fameuses licences libres dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais sans forcément rentrer dans les explications. Alors pour cela, nous avons convié deux invités, donc Mélanie Clément-Fontaine qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, donc droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et Olivier Hugo, qui est avocat au cabinet Dune.
Bonjour.
Alors voilà, proche des micros, voilà, très bien. Alors, avec vous, nous allons essayer de faire une première introduction sur cette notion de licence libre pour un petit peu expliquer comment tout cela, ça fonctionne. Et pour commencer, on va faire une introduction sur le droit d'auteur pour les créations de l'esprit, pour un petit peu comprendre comment cela fonctionne. Alors, qui veut commencer pour expliquer un petit peu les bases, on va dire, du droit d'auteur? On va dire en général pour les créations de l'esprit. Donc Mélanie.
Le principe, c'est que toute création ne fait pas l'objet d'une protection parce qu'on ne veut pas enfermer toute la production intellectuelle dans des formes de monopole. Donc il faut que la création réponde à certains critères et à ce moment-là, effectivement, le droit accorde un monopole au titulaire qui est désigné aussi par un texte particulier en fonction des circonstances de la création. Donc, s'agissant du droit d'auteur, on va exiger que la création prenne forme, qu'elle ne soit pas une simple idée enfermée dans l'esprit d'une personne, mais qu'elle prenne forme, qu'elle soit perceptible et qu'elle soit originale. Alors, l'originalité varie en fonction du type de création. Traditionnellement, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire ce qui a su insuffler de sa personnalité dans sa création, ou du moins l'effort intellectuel qu'il a produit pour faire cette création. Et à partir de là, il dispose d'un monopole pendant un certain nombre d'années, traditionnellement 70 ans à compter de sa mort.
Peut-être que vous allez pouvoir préciser les deux types de droits qui sont concernés par le droit d'auteur. Donc il y a le droit patrimonial et le droit moral. Quelles sont les spécificités, notamment dans le domaine du logiciel, s'il y en a des spécificités par rapport au droit patrimonial et au droit moral? Qu'est-ce que permettent ces deux droits, en fait?
Alors, avant Mélanie. D'entrer dans les détails de ces droits, il faut en comprendre le sens. Pourquoi on va accorder un monopole à l'auteur? Eh bien, parce qu'on a décidé que l'auteur devait gagner en liberté. Et pour gagner en liberté, il faut qu'il puisse tirer profit de l'exploitation de sa production intellectuelle. Donc, on veut lui accorder des droits d'exploitation. C'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, des droits qui lui permettent de décider s'il souhaite exploiter commercialement, économiquement son œuvre, c'est-à-dire autoriser la reproduction ou la représentation. Ce sont les deux grands droits patrimoniaux les plus mis en avant, en tout cas dans notre droit français. Et puis, par ailleurs, c'est développer l'idée que l'œuvre étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, une représentation finalement, un prolongement de lui-même, il fallait aussi protéger un aspect moral de l'œuvre, ce qu'on appelle le droit moral, et donc lui reconnaître un droit de paternité, le droit de faire reconnaître son lien, le fait qu'il a été le créateur de cette œuvre, ou au contraire, le droit de rester anonyme, et puis le droit aussi de protéger, par exemple, l'intégrité de son œuvre, c'est-à-dire refuser qu'une tierce personne vienne modifier son œuvre. C'est un droit moral qui est hors économie, c'est-à-dire que ce droit, il ne va pas le céder, il va le garder tout.
C'est un droit incessible.
Voilà, c'est un droit incessible. Il ne peut pas y renoncer, il ne peut pas le céder. Et ce droit, eh bien, va perdurer après sa mort et va être exercé éventuellement par ses héritiers.
Donc c'est important de préciser que par rapport à la durée dont tu as parlé tout à l'heure, donc 70 ans après la mort de l'auteur, 70 ans, ce n'est pas les droits patrimoniaux, les droits moraux, ça dure jusqu'à, voilà, et on a eu des cas, bon, on ne va pas revenir dessus, notamment sur la suite, par exemple, des Misérables, Victor Hugo, il y a eu un procès il y a quelques années là-dessus, ces droits-là courent après la mort de l'auteur. Alors ça, c'est dans la propriété donc littéraire et artistique pour les œuvres en général. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du domaine du logiciel, notamment, alors, je pense notamment au droit moral. Est-ce que, par exemple, il y a des droits moraux qui existent encore? Et est-ce qu'au niveau des droits patrimoniaux, des spécificités? Je pense, par exemple, aux gens qui travaillent dans l'administration ou pour des employeurs. Qui est, par exemple, titulaire des droits patrimoniaux? Est-ce que c'est la personne qui crée le logiciel ou est-ce qu'une autre personne?
Alors,
Olivier Hugo.
Concernant le droit moral sur un logiciel est beaucoup plus restreint que sur une œuvre, on va dire, picturale, par exemple, ou une œuvre littéraire, par exemple. Puisque le logiciel a cette spécificité qui est de facto reconnue par le droit, c'est qu'il a une fonction utilitaire, originellement. Et on le reconnaît comme ça, puisque le logiciel a vocation à évoluer, à être modifié au gré des mises à jour, etc. etc. Donc, dire que... un logiciel ne peut jamais être modifié et qu'on protège au terme du droit moral, un logiciel n'a pas vraiment de sens. On va considérer que le droit moral sur un logiciel va se limiter vraiment au droit à la paternité, c'est-à-dire au droit au nom. C'est-à-dire que vous avez écrit un logiciel, si on le diffuse ou même à partir du moment où on le reproduit, il faut qu'il y ait votre nom qui soit mentionné. Ce qui est d'ailleurs un socle commun de l'ensemble des licences libres. Donc ça, il y a une cohérence assez forte entre le droit d'auteur tel qu'organisé et les licences libres. Et le droit moral, il faut rappeler aussi que c'est quand même une spécificité qui est en droit français et en droit civil qu'on connaît pas en droit, par exemple, en droit américain ou en common law. Donc là, c'est une différence assez forte. Donc c'est vraiment le droit moral, un aspect de la personnalité, comme tu l'as rappelé, qui reste attaché à l'auteur ou à ses ayants droit. Donc c'est attaché à une personne physique. La problématique, je pense, liée aux droits patrimoniaux et aux logiciels et à la titularité, la règle, de toute façon, veut qu'un auteur en droit français soit une personne physique. C'est pas une personne morale. En revanche, effectivement, dans une relation entre par exemple un développeur et son patron, un salarié dans une entreprise, le code de propriété intellectuelle dispose que, sauf convention contraire, notamment dans le contrat de travail, il y a une dévolution des droits, c'est-à-dire que même si je code, je reste auteur, je suis auteur, mais les droits en fait sont transférés automatiquement sur la tête de l'employeur. Pour qu'il puisse notamment, et logiquement, on puisse développer, parce qu'en général, un logiciel, c'est pas une seule personne qui travaille dessus, vous avez des équipes entières, et qu'il puisse divulguer le logiciel sous son nom, comme ça arrive dans tous les logiciels. Donc là, il y a une petite spécificité, effectivement, quelque chose que c'est plus rare de créer des œuvres protégées dans le cadre d'un contrat de travail. Ça peut arriver, encore une fois, dans d'autres choses que le logiciel, si vous êtes graphiste, etc. Mais là, on n'a pas de disposition particulière. Donc, il faut prévoir des clauses de cession dans les contrats de travail pour les œuvres graphiques, par exemple. Alors, c'est différent pour le logiciel.
D'accord. Alors, un point qui est important à préciser, même si on ne va pas rentrer dans le détail historique, peut-être que une prochaine fois, c'est que c'est pas depuis très longtemps en fait que le droit d'auteur a été choisi. Bon, en même temps, le logiciel, l'informatique n'existe pas depuis trop longtemps. Et il y a eu des débats pour le choix du corpus juridique ou de l'instrument juridique entre un droit sui generis, droit d'auteur ou brevet. Mais sans rentrer dans les détails, juste peut-être une précision importante. Ce qui est protégé, c'est la forme. De logiciel, ce qui est mis en œuvre, et pas les idées. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire par exemple un logiciel libre comme LibreOffice, qui est un traitement de texte sous une licence libre, est parfaitement cohérent avec le droit d'auteur, alors même qu'il existe d'autres suites bureautiques privatrices, parce que ce qui est protégé, c'est la façon dont on écrit le code, et non pas le fait qu'on implémente des idées d'un traitement de texte. Mélanie, est-ce que tu veux préciser là-dessus?
Oui, c'est un principe commun à toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur. Pour prendre un exemple hors logiciel qui sera peut-être plus parlant, c'est l'idée d'emballer le pot neuf, par exemple, ce qu'avait fait Christo. Cette idée-là, elle n'est pas protégée. Ce qui est protégé, c'est le résultat, c'est le pont neuf emballé. Donc si quelqu'un veut photographier le pont neuf et exploiter cette photographie, il devra demander l'autorisation de l'auteur. En revanche, si une tierce personne décide d'emballer un autre monument, eh bien, Christo ne pourra pas s'y opposer parce qu'il ne s'agira pas d'une contrefaçon de son œuvre. Eh bien, le logiciel, c'est la même chose. C'est la manière dont c'est écrit, c'est ça qui va être protégé, à l'instar d'une œuvre, d'un roman, par exemple, et non pas les idées qui sont développés dans l'œuvre, que ce soit un programme ou un roman.
D'accord. Olivier Hugo, tu veux compléter sur cette partie ?
Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que les idées sont de libre parcours, donc on ne peut pas se les approprier, heureusement, encore une fois, parce qu'autrement, on aurait une protection qui est... La protection du droit d'auteur, c'est une fiction juridique, comme la propriété d'une manière générale. C'est une fiction juridique. On vous dit, vous avez tel droit parce que vous avez créé telle œuvre et qu'elle répond à tel critère d'originalité, notamment, et qu'elle n'est pas juste une idée un peu... Alors, ce qui est toujours compliqué lorsque l'on a un dossier, c'est qu'à partir de quand on est dans l'abstraction et à partir de quand on est dans l'expression. Et c'est cette ligne qui est parfois, d'ailleurs c'est ça qui fait l'objet des contentieux en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on trace la ligne entre l'abstraction et l'expression. Pour continuer sur l'exemple de Christo, effectivement, l'idée d'emballer un monument en public, bon, en soi, bah, effectivement c'est une idée et on ne pourra pas le faire. En revanche, si je décide d'emballer la Tour Eiffel et que on va considérer que je le fais de la même manière, qu'il y a, on va dire, justement, la patte de l'artiste, son empreinte, ça a été fait et il y a des points de similarité qui sont tels que il y a une ressemblance qui peut être troublante. Là, on va rentrer dans l'expression, donc la façon dont on va créer une œuvre. La difficulté avec le logiciel, c'est son aspect fonctionnel, puisque là, on implémente une idée, on veut arriver à un tel résultat. Et pour atteindre tel résultat, est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire, une seule façon de le faire? Est-ce qu'on sait que si on le fait de telle manière, une autre personne le fera d'une manière totalement différente? Ou grosso modo, on va se dire que pour implémenter, pour aller de A vers C, il va nécessairement falloir passer par B et qu'il n'y a pas 50 façons de le faire. Et dans ce cas-là, on ne sera pas forcément éligible à la protection. C'est ce qui rend la protection du logiciel un peu différent que si on prend... deux œuvres littéraires, par exemple, on compare deux livres, parce que le logiciel, ce qu'on protège, c'est initialement c'est le code source, c'est une œuvre littéraire comme une autre aussi, hein, donc c'est ça, il y a aussi un double aspect de protection, protection générale, parce que c'est un langage, le code, et ensuite aussi il y a l'aspect utilitaire du logiciel, c'est pour ça qu'il y a un double aspect de protection dans le droit d'auteur.
D'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure Mélanie, ce critère d'originalité qui est la propriété littéraire artistique dans le domaine du logiciel comme c'est utilitaire, c'est l'apport intellectuel qui doit être démontré. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cas des contentieux. Dernière question sur cette partie-là avant d'aborder donc évidemment la mise en œuvre des licences libres. Quel est le formalisme pour être régi par le droit d'auteur? Est-ce qu'il y a un formalisme? Est-ce qu'il faut déposer son œuvre quelque part ou
Ça, c'est une différence du droit d'auteur avec, par exemple, le droit des marques ou le droit des brevets. Il n'y a aucun formalisme. L'œuvre est créée au fur et à mesure de sa création. Donc, elle n'a même pas besoin d'être achevée pour être protégée. Simplement, il s'agit de prouver que cette œuvre a été créée et de prouver aussi sa paternité pour pouvoir se prévaloir des droits sur celle-ci.
D'accord, donc ça c'est un point important effectivement par rapport à d'autres droits où il n'y a pas de... Là, où il y a certains à certains formalismes. Là, il n'y en a pas. Évidemment, quand on va parler des licences libres et des logiciels libres, la publication sur Internet des codes avec l'historique, et notamment sur les outils de forge de logiciels, apporte évidemment des sécurités juridiques supplémentaires. Donc là, c'est une introduction sur la partie droit d'auteur. Alors, je précise pour les personnes expertes sur le sujet que nous n'avons pas abordé évidemment les exceptions spécifiques au droit d'auteur du domaine du logiciel. Nous le ferons sans doute dans le cadre d'une autre émission parce que c'est très très large, notamment l'exception de décompilation, par exemple, la copie de sauvegarde et pas de copie privée, etc. Là, on se concentre vraiment sur la partie licence libre dans une première introduction. Alors justement, donc on a vu donc le logiciel, donc l'outil juridique, donc depuis 85 en France, si je me souviens bien, c'est donc le droit d'auteur, et au niveau européen aussi. Comment ça s'applique donc dans le domaine du logiciel libre? Alors de la première question, on va rappeler peut-être les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Qui veut les rappeler? Ah d'accord, en fait on me regarde moi, d'accord. On va rappeler la base donc, qui a été de formalisme de définition du logiciel libre, donc qui sont quatre libertés fondamentales, donc la liberté d'utiliser le programme comme bon vous semble, la liberté d'étudier son fonctionnement parce qu'il est livré avec sa recette de cuisine, la liberté de le modifier soit pour corriger des bugs, soit pour le faire évoluer, car comme le disait si bien tout à l'heure Olivier Hugo, un logiciel d'ailleurs n'est jamais terminé, il évolue. Et la quatrième liberté, c'est la liberté d'en faire des copies, donc soit de la version originale pour le diffuser autour de soi, soit de faire une rediffusion de version modifiée. Donc ça, ça a été les quatre libertés fondamentales définies dans les années 80. Mais après, comme on a bien compris, il faut qu'elles soient mises dans le droit juridique quelque part, qui est donc le droit d'auteur, et c'est là qu'intervient cette notion de licence libre. Donc comment ça se passe concrètement, Mélanie?
Ce qui est intéressant d'abord de souligner, c'est que les licences libres vont s'appliquer à des logiciels protégés. Donc, on reconnaît une protection, donc il y a un monopole. Et la personne titulaire de ce monopole va prendre la décision de partager finalement l'usage de son logiciel. Ce monopole lui permet initialement d'interdire l'utilisation du logiciel, et c'est ce qu'on va appeler le copyleft. Cette personne va renverser cette logique-là en disant de ce monopole, je vais en fait lever tous les péages et autoriser la copie, la modification, la diffusion et l'usage de mon logiciel. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à la transmission du logiciel, mais c'est une invitation à partager la création de ce logiciel. Et donc, petit à petit, va s'agréger un certain nombre de personnes qui vont participer à l'évolution de ce logiciel et peuvent se prévaloir aussi de la qualité d'auteur. Et donc, on va avoir une communauté d'auteurs autour d'une même création qui ne va cesser d'évoluer. Et tout ça va être finalement encadré par des licences libres dont nous allons débattre immédiatement.
Exactement. Alors, première précision importante, et je vais laisser Olivier poursuivre sur ce sujet-là. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, alors que ce soit dans le domaine du logiciel ou dans le domaine d'autres œuvres dont on parlera en fin d'émission, le fait de dire sur Internet « mon œuvre que je viens de produire est libre » ne suffit pas. Il faut préciser les conditions en fait, de réutilisation possibles. Alors soit on peut évidemment écrire sa propre licence, mais soit on peut réutiliser tout simplement le travail qui a été fait par d'autres personnes et utiliser donc justement des licences libres qui vont justement expliciter et dans un cadre juridique les libertés données aux personnes qui vont réutiliser ce logiciel. Donc, les licences libres, ça date depuis quand à peu près, Olivier Hugo?
La première, c'est 80.
Dans les années 80, les premières. Les années
80. Ouais, on va dire. Quelque chose que je voulais ajouter. Vas-y. Qui est important, c'est que on a des licences parce qu'on a le droit d'auteur. S'il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y aurait pas de licence. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là qui est essentiel, c'est que les licences, quelles qu'elles soient, libres, pas libres, peu importe, une licence n'existe que parce que le droit vous confère, si les conditions sont réunies, qu'on a évoquées tout à l'heure brièvement, vous confère un droit exclusif. Et en fait, la licence permet juste de décider comment vous voulez organiser, quelle autorisation vous donnez aux gens. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, après, à vous de déterminer ce que vous décidez de faire ou pas. Mais votre création originale, votre création protégée, c'est la vôtre. Le droit vous dit que vous pouvez effectivement décider de la diffuser, de la garder dans un coffre chez vous, de jamais la diffuser. Vous en faites grosso modo, ce que vous voulez, sous réserve de certaines exceptions légales ou autres. Mais globalement, c'est chez vous. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes chez vous. Si quelqu'un sonne à votre porte, vous décidez d'ouvrir la porte ou pas de l'ouvrir. C'est votre décision. Là, c'est pareil. Vous êtes titulaire. Le droit vous confère certains droits exclusifs qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous décidez de l'organiser. Donc, une licence, ça permet d'organiser ces droits. Les licences libres sont rédigées de telle manière, effectivement, à protéger les libertés qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais c'est une manière de le faire. Il y a un côté extrêmement pratique, puisqu'elles sont préexistantes. Donc, on va dire, on va prendre sur telle ou telle licence, les gens les connaissent. Donc, on sait comment les utiliser globalement. C'est plus simple qu'à chaque fois devoir réécrire sa propre licence et dire, faites ce que vous voulez dans telle et telle condition. Donc, la licence, ça est vraiment un moyen d'organiser la façon dont vous voulez diffuser, mettre à disposition ou reproduire votre œuvre. Donc ça, c'est vraiment important, parce que s'il n'y avait pas de droit d'auteur, les licences, effectivement, on pourrait les jeter et les mettre à la poubelle, ça ne servirait à rien. Donc c'est une façon d'organiser, c'est votre liberté. Donc la licence, c'est vraiment une expression de votre liberté sur les droits des œuvres que vous créez. Donc vous êtes titulaire.
Alors très bien.
C'était quoi l'autre question ?
C'était peut-être de parler un petit peu plus en détail des licences et notamment des types de licences, mais on va peut-être faire une petite pause musicale avant. Mais juste avant la pause musicale, on va juste préciser un point important, parce que quand on va parler des autres œuvres, c'est essentiel, c'est que dans la définition du logiciel libre, la restriction, et qui a été évoquée d'ailleurs par Jean-Christophe en introduction, il n'y a pas d'interdiction de réutilisation commerciale. Donc toutes les licences logiciels libres, pour être définies comme licences logicielles libres, doivent permettre la réutilisation commerciale. Et notamment par rapport aux licences qui existent déjà, même si on va les citer un petit peu après, et on va rentrer dans le détail sur les deux types de licences, en fait, les deux grandes familles. Il y a deux grandes structures qui existent dans le monde du logiciel libre, qui est la Fondation pour le logiciel libre, donc la Free Software Foundation, et l'Open Source Initiative, qui maintiennent une liste de licences considérées comme évidemment libres, donc mettant en œuvre les quatre libertés, qui permettent de faciliter le choix des licences. Et notamment un point qu'on n'abordera peut-être pas, parce que ça peut paraître un peu compliqué, c'est la compatibilité entre les licences quand on utilise des codes qui viennent déjà de licences différentes. Là, on va partir du principe qu'on a son propre code, qu'on veut mettre sur une licence, voilà. Donc ça, c'était important de parler de cette notion aussi de libre versus gratuit. Donc juste après la pause musicale, en fait, on va justement un petit peu rentrer dans le détail et expliquer les deux types grandes familles de licences qui existent, parce qu'il y a un impact important, notamment sur l'hérédité des libertés et ensuite sur le respect des droits. Mais on va faire une petite pause musicale, donc le temps que je retrouve... j'ai retrouvé. Donc on va écouter Opening Theme par Daniel Bautista et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Bien, nous venons donc d'écouter, nous terminons d'écouter donc Opening Theme par Daniel Bautista. Donc c'est en licence Creative Commons partagée identique et vous retrouvez les références sur le site de l'April. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions donc de droits d'auteur, base évidemment des licences libres. On a commencé un petit peu à parler des licences libres, qui donc mettent en œuvre juridiquement les fameuses quatre libertés du logiciel libre, hein, utilisation, étude, modification, redistribution. Mais dans les familles de licences libres, il y a des spécificités, notamment il y a deux grands types de familles, on va dire, celles qui mettent en œuvre un principe qui vient de l'anglais, donc copyleft, qui est un jeu de mots sur évidemment copyright, qui est traduit en français par gauche d'auteur, et les licences dites, on va dire, permissives. Alors, donc je suis déjà toujours avec Mélanie Clément-Fontaine du laboratoire Dante et Olivier Hugo, avocat. Donc, qui veut faire cette explication toujours complexe, hein, parce que de la notion de copyleft ou gauche d'auteur? Qui veut commencer? Mélanie.
Alors, effectivement, on peut opposer les licences copyleft des autres licences libres. Les licences copyleft ont cette particularité d'ajouter des conditions qui assurent la pérennité des libertés. C'est-à-dire que lorsque l'on autorise des tiers à copier, diffuser, utiliser le logiciel sans autre condition, il se peut que ces tiers modifient le logiciel de telle sorte qu'ils créent une nouvelle œuvre et puissent se prévaloir donc d'un monopole sur cette nouvelle œuvre et à partir de ce monopole, en fait, ne pas accorder les mêmes libertés aux autres. Et donc la logique du copyleft, c'était de dire ben, si vous venez participer à l'évolution de cette œuvre, vous allez conférer les mêmes droits d'utilisation sur les modifications que vous apporterez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de divulguer les modifications qu'on réalise, mais à partir du moment où on les divulgue, eh bien, on va les divulguer sous la même licence qui va accorder la possibilité d'utiliser le logiciel, de le copier, de le diffuser, de le modifier. Et donc, c'est ce qu'on appelle la clause copyleft, celle qui a été, en fait, définie dans la GNU GPL initialement, et qui a été reprise dans d'autres licences telles que la licence Cécile, par exemple, ou la licence UPL, qui est la licence proposée par l'Assemblée européenne à propos des logiciels ou des contenus libres.
Alors, c'est une très bonne introduction, mais c'est même une très bonne explication avec un des points fondamentaux qui est souvent mal compris, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de redistribution. Mais par contre, quand il y a redistribution, on redistribue sous les mêmes conditions que la licence originale. Alors ça tombe bien parce que tout à l'heure on parlera peut-être d'un cas emblématique en France où la question s'est posée. Hein. Donc ça c'est la zone copyleft, donc on traduit par gauche d'auteur. Donc la GNU GPL c'est la licence phare de la Fondation pour le logiciel libre et c'est encore aujourd'hui l'une des licences phares. Hein. Le noyau Linux est sous une licence GNU GPL. Plein de codes et sous licence GNU GPL. Mais comme tu dis, c'est pas la seule licence de type copyleft. Donc à côté de ça, les autres licences, c'est des licences qu'on appelle plutôt permissives, c'est-à-dire qu'elles permettent en fait de supprimer les libertés initiales, ou en tout cas de faire une version modifiée qui n'est pas sous les mêmes termes que la licence originale. Olivier Hugo.
Exactement. C'est-à-dire que les licences qu'on va appeler permissives, en fait, il y en a un nombre certain, mais grosso modo, en général, elles ont les caractéristiques d'être des licences extrêmement courtes, premièrement. Parce que leurs obligations sont extrêmement limitées. La plupart du temps, ce qu'on va vous demander, c'est de conserver les notifications de copyright ou de droit d'auteur, donc en l'occurrence qui sont les auteurs ou les titulaires de droit sur le logiciel. Et deuxième aspect, c'est de mettre une clause limitative ou de responsabilité ou d'exclusion de responsabilité. Le principe étant, on vous laisse utiliser cette brique logicielle, ce bout de code, mais si ça pose un problème après et que ça crée un dommage quel qu'il soit, venez pas nous voir pour récupérer de l'argent, d'autant plus que vous bénéficiez gratuitement de ce code. Ce type de licence ne permet pas effectivement de protéger les libertés qui ont été concédées ab initio par le premier titulaire de droit, puisque moi je peux le reprendre, l'encapsuler dans un code par ailleurs et le mettre sous une licence de mon choix. Donc il n'y a pas de garantie de pérennité que les différents licenciés successifs ou utilisateurs vont avoir les mêmes droits, les mêmes libertés que celles qui ont été concédées par l'auteur à l'origine. Les licences copyleft en contrepartie, eux, garantissent. Parce qu'on va pas venir effectivement vous embêter sur votre utilisation privée, que vous faites de la licence. Vous pouvez étudier chez vous ou même dans votre entreprise, si ça reste au sein d'une entreprise. Vous pouvez les conserver. Ça reste une utilisation privée ou interne. Mais en général, le critère va être celui de la diffusion, mise à disposition. Bon, ça dépend des termes, mais ça dépend aussi des licences. Mais à partir du moment où vous allez avoir un contact avec un tiers qui va recevoir soit une copie ou soit qui va interagir avec le logiciel, donc il va avoir accès au logiciel, vous allez devoir permettre à minima ce tiers de récupérer le code, de savoir d'où vient le logiciel et d'expliquer ce qu'il récupère. Ça, c'est ça la notion de copyleft, c'est que en fait, même si je décide, si je prends un programme sous copyleft, que je le mets avec plein d'autres programmes qui peuvent être sous des licences différentes, sous réserve qu'elles soient compatibles évidemment, ou qui ne pose pas de problème dans l'architecture de logiciel. Si je le diffuse, le tiers qui doit le recevoir doit à minima recevoir le code et l'information nécessaire, c'est-à-dire le texte de la licence, c'est-à-dire quel droit il va obtenir, ça c'est important, qui sont les auteurs, et avoir le code sous le même droit. Ça c'est un copyleft, on va dire faible, c'est-à-dire qu'il va rester restreint au logiciel initial. Et après, il peut y avoir des copyleft plus forts, qui vont pouvoir se diffuser vers d'autres parties de la distribution, par exemple, sur des logiciels qui ne sont pas des logiciels. Et c'est ça l'intérêt, en fait. Ça peut être soit les modifications du logiciel, soit même d'autres logiciels, mais qui sont distribués ensemble. Et là, on va avoir l'effet, on va dire, positif dans le cadre des communs, c'est-à-dire que là, on va avoir une diffusion de cette licence et une diffusion de ces libertés à l'ensemble du code, par exemple, d'une distribution. Et c'est ça l'intérêt du copyleft, c'est d'empêcher l'encapsulation, puisque, en fait, entre guillemets, pour dire ça autrement, tout simplement, c'est-à-dire qu'on joue le jeu, quoi. C'est-à-dire on bénéficie d'un logiciel de manière gracieuse quand on est, en l'occurrence, dans la vie des affaires, c'est quand même une valeur. Si on l'améliore, on le diffuse, on fait bénéficier la communauté de ces améliorations. C'est l'idée, elle est assez simple, en fait, et assez assez vertueuse.
Alors par rapport à ça, ça me fait penser à la citation dont parlait Jean-Christophe Becquet dans l'introduction, la citation d'Eben Moglen où la GNU-GPL, donc la licence phare copyleft, crée un pot commun dans lequel chacun peut ajouter mais personne ne peut retirer. Deux remarques là-dessus, ce qui me fait penser, c'est que quand tu expliquais que les licences permissives sont relativement plus courtes parce qu'en fait elles permettent plein de choses, ça m'a fait penser que licence de type copyleft évolue pour justement tenir compte de ces notions de redistribution et du contexte juridique. Donc, par exemple, la licence GNU-GPL de mémoire, sa première version, c'est 89, la deuxième, c'est 91, la troisième, c'est 2007. Donc, il y a déjà maintenant 12 ans. Il est probable qu'il y ait une nouvelle version dans quelques années à venir pour justement tenir compte de l'évolution juridique et de cette notion de redistribution. Il y a aussi des versions un petit peu évolutives, enfin, dédiées par exemple au web, comme l'Afero-GPL. Alors, je suis désolé, on essaie d'éviter d'employer des noms de licences ou d'acronymes, de les limiter. Sur le site de l'April, donc, dans la page consacrée à l'émission, dans les références, je vous ai mis les deux liens vers le site de la Fondation pour le logiciel libre et l'Open Source Initiative. Vous avez une liste de licences commentées, notamment la page de la Fondation pour le logiciel libre est très bien faite. Elle explique effectivement les différents types de licences, pourquoi choisir et les compatibilités. Et deuxième chose, un terme qui est souvent employé pour les licences de type copyleft et qui est impropre, comme tu l'as en fait expliqué, c'est le terme de contamination. Parce qu'en fait, c'est un choix d'utiliser des licences libres sous copyleft. Donc à partir du moment où on fait ce choix-là, on doit évidemment respecter le choix des personnes titulaires du droit qui ont décidé de mettre ça sous licence copyleft. Et donc on respecte les règles, ou alors on ne les utilise pas. Et tout à l'heure, quand on parlera de la jurisprudence et de faire respecter les droits, on aura deux cas d'explication justement sur cette notion de redistribution. Voilà, donc ça c'est licence de type copyleft, donc gauche d'auteur versus licence de type permissive. Est-ce que Mélanie, tu veux poursuivre sur ce ou compléter sur ce point-là?
Bien, donc si on résume ce que l'on a dit, lorsque l'on veut utiliser un logiciel, la première chose qu'on vient de se demander, c'est si ce logiciel est protégé. S'il est effectivement protégé, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un monopole par le droit d'auteur, il faut prendre connaissance des conditions sous lesquelles il est possible de l'utiliser. Et c'est là où interviennent les licences, puisque c'est ces documents qui expliquent la manière dont on peut les utiliser. Donc lorsque le logiciel est soumis à une licence copyleft, eh bien on s'engage du coup à participer à ce projet collectif qui est de dire « j'utilise ce logiciel et si j'ai les capacités de l'améliorer et que j'ai envie de partager ces améliorations, eh bien je vais offrir les mêmes droits. » Ou alors, ce logiciel est soumis à un autre type de licence que moi j'appelle le type domaine public, puisque ça consisterait presque à dire bah, « moi je me fiche de mon monopole, faites-en ce que vous voulez, si vous voulez vous réapproprier ma création, vous le faites ». Et à ce moment-là, effectivement, l'utilisateur va pouvoir utiliser de manière permissive ce logiciel, c'est-à-dire l'inclure dans un développement plus large et éventuellement eh bien, soumettre le résultat à une licence qui va conférer des droits moindres, à savoir par exemple un usage que personnel du logiciel et pas un usage aussi large que ce qu'accordent des licences libres.
Alors c'est tout à fait intéressant et important, et je vais aussi préciser que si on passe du temps à expliquer ce qu'est le copyleft, c'est parce que c'est pas simple à forcément à comprendre et que ça a des implications concrètes. Mais il faut bien dire une chose, c'est que les licences copyleft ou permissives sont dans tous les cas des licences libres. Ça ne remet pas en cause le fait que ce sont des licences libres. Deuxième chose, c'est que c'est quelque part un choix politique ou de société, du teller de droit, de la personne qui écrit le logiciel, de faire ce choix-là. Et on va dire que certains préfèrent effectivement des types de copyleft pour l'hérédité, d'autres personnes préfèrent le choix de type licence permissive, comme tu l'as dit Mélanie, que tu appelles domaine public quelque part, sur le principe de dire... Moi, je le mets en libre. Après, vous en faites ce que vous voulez, y compris une version privatrice si vous avez envie. Donc ça, c'est un choix tout à fait respectable. Bon, si on passe un peu de temps sur la partie copyleft, c'est parce que c'est quelque chose de pas forcément simple à comprendre et que ça a un impact, quand on va parler juste après, la jurisprudence et de faire respecter les droits. Mais avant de parler de ça, je voudrais juste citer, parce que je viens de le mettre sous les yeux, le fait qu'aujourd'hui, l'État français développe des logiciels, certains en logiciels libres. Et très récemment, les licences libres ont fait leur entrée dans le code... alors c'est le code des relations, des documents administratifs, je crois, des relations du public avec l'administration, de mémoire. Donc c'est dans tout cas dans le cadre de la loi pour la République numérique donc d'octobre 2016. Il y a ensuite un décret qui a été publié en 2017 qui précise les familles de licences qui peuvent être utilisées, donc notamment par les agents publics, dans le cadre de logiciels, mais également aussi dans le cadre d'autres œuvres. Et quand on regarde en fait ce décret, alors je vous mettrai la référence sur le site de l'April, sur la partie licence, effectivement on voit qu'il y a des licences, alors eux, ils appellent ça, enfin le décret appelle ça des licences avec obligation de réciprocité, donc c'est les licences copyleft, et puis il y a les licences dites permissive. Alors, je vais en citer une parce que c'est sans doute la plus connue, c'est la BSD, donc Berkeley Software Distribution License. Il y a aussi la licence Cécile dont Mélanie a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a un décret qui permet effectivement, alors c'est le code, clairement c'est le code des relations entre le public et l'administration, qui dit voilà, aux agents publics qui veulent recourir à une licence libre et qui d'ailleurs, pour la plupart des cas, sont d'ailleurs dans l'obligation, vous pouvez choisir ces types de licences-là. Elles sont listées dans le décret et évidemment, elles sont mises à jour régulièrement sur le site du gouvernement, en l'occurrence le site data.gouv.fr. Donc ça, c'est important de préciser aussi cet aspect reconnaissance par l'État français, quelque part, de ces licences. Mélanie, tu veux réagir ?
Oui, là, ce dont on parle, c'est des logiciels qui sont créés par des personnes privées. Et par ailleurs, il y a toute une réflexion sur tout ce qui est données publiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle la politique de l'open data qui consiste à rendre finalement ce qui a été produit par les administrations, par les collectivités publiques, à l'aide des taxes ou des impôts que le contribuable verse, à le rendre au public. Et donc, à faire que ces données publiques soient accessibles par tous et réutilisables par tous. Et on retrouve le concept qui a été développé dans le domaine privé à travers les licences libres. Et donc, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on voit converger finalement les licences applicables aux données publiques, dont font partie les logiciels, les codes sources au terme de la loi pour une République numérique, puisqu'elle cite le code source comme une donnée publique. Et donc ce régime converge avec ce qui a été développé par des individus que sont les licences libres.
Et alors, donc, évidemment, comme tu connais, tu maîtrises ce sujet-là, le décret dont je parle, évidemment, il y a une partie sur les licences logicielles, et la première partie, effectivement, et je l'ai sous les yeux, c'est concerne les données publiques, avec, et là aussi, on retrouve des licences type Open Database License, etc. Donc, il y a les deux, cette partie-là. Mais comme on parlait que de logiciels, je n'avais cité que cette partie-là. Mais effectivement, et on a déjà consacré une émission sur les données publiques, alors je ne sais plus quand c'était, mais vous regardez sur le site de l'April, notamment avec nos amis de Regard Citoyen, avec Laurence Compara de la ville de Grenoble et Xavier Berne, journaliste à Next Impact. Donc je vous invite à écouter cette émission. Évidemment, on refera une émission sur les données publiques et donc l'open data. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui est, on va dire, faire respecter les droits, parce qu'on a bien compris après ces explications que, bah, notamment les licences copyleft, bah, y a des conditions de réutilisation, de redistribution, si on choisit évidemment de redistribuer. Donc là, je vais m'adresser d'abord à l'avocat, qui est Olivier Hugo, sur la jurisprudence qui existe. Est-ce qu'il y a des cas de non-respect, effectivement, des conditions de la licence? Et que dit cette jurisprudence?
Alors, en France...
Principalement en France, on va rester en France, voilà.
En France, on a une jurisprudence qui est aujourd'hui, malheureusement, assez pauvre. Enfin, malheureusement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où... si ça permet d'avoir des règlements à l'amiable qui sont privilégiés, c'est toujours mieux qu'un bon procès. Mais c'est bien aussi d'avoir des tests, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, des licences libres par les juridictions françaises. Parce qu'encore une fois, une licence, elle existe et elle s'interprète avec un droit. Notamment dans les licences libres, vous n'avez pas de clause, alors c'est peut-être un peu technique, mais vous n'avez pas de clause de droit applicable, c'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement interpréter la même licence de la même manière en droit français qu'en droit américain, par exemple, même s'il faut quand même se dire que globalement, le droit d'auteur est quand même assez unifié dans la plupart des pays, en tout cas signataires de la Convention de Berne. Donc, il n'y a pas des différences fondamentales, mais on interprète quand même au vu du droit local. En droit français, on a eu une décision qui est du 4 ou est du 4, je ne sais jamais comment on prononce, qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris il y a de cela quelques années maintenant, qui constatait la violation d'une licence. Je crois que c'était la GNU-GPL, sauf
erreur. Tout à fait.
C'est ça. Donc, ce qui, d'ailleurs, était assez intéressant, parce qu'en doctrine, on avait beaucoup de... on les voit moins maintenant, mais il y a quelques années, il y avait beaucoup d'articles sur la validité des licences au droit français. Est-ce que les clauses limitatives ou d'exclusion de responsabilité sont valables, etc., etc. La plupart du temps, c'est quand même un faux débat, comme ça l'a montré, pour une raison très simple, c'est que quand on est dans une démarche de compliance, de mise en conformité, c'est-à-dire qu'en général, on est l'auteur ou le titulaire de droit, et on ne va pas soi-même aller dire qu'il y a un problème avec la licence que l'on souhaite faire respecter, puisqu'en fait... c'est un peu la beauté de la contrefaçon du droit d'auteur, parce que c'est ça dont on parle. C'est vous vous rendez compte que vous avez écrit un logiciel qui est utilisé par un tiers. Donc soit ce tiers a le droit de le faire au terme de la loi dans le cadre d'une exception légale, qui encore une fois sont quand même relativement limitées, donc c'est en général pas le cas. Soit il dit qu'il le fait et qu'il respecte la licence. Parce que s'il respecte pas la licence, c'est simple, ben, il a aucun droit de le faire, tout simplement. Donc de toute façon, tous ces articles qu'on a vus un peu en forme d'épouvantail il y a quelques années pour aller à l'encontre des licences libres, ça a fait finalement beaucoup de bruit ils vont pas très loin. Donc, vous êtes auteur, vous décidez effectivement de donner certains droits. Et c'est ce que, tout simplement, c'est pour ça que la décision, même si la rédaction de la décision est du fort et pas forcément la meilleure et pas forcément la plus claire, est assez intéressante. Après, on a eu d'autres procès qui ont été engagés, mais qui ont été négocié.
Alors, on va préciser le terme négocié, oui. Parce que ce terme peut être vu négativement par les gens qui nous écoutent. Alors juste, je mettrai les références sur le site de l'APRI sur les deux cas que, dont on parle rapidement, parce que évidemment, on peut le faire que rapidement. Le premier, donc Educat, c'était l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes qui s'est rendu compte en fait que son prestataire lui avait fourni un logiciel de contrôle à distance d'ordinateur qui était en fait un logiciel libre sous GNU/GPL, en ayant en plus enlevé toutes les références à la GNU/GPL. Donc ça avait commencé en 2001 et le juge a tranché en faveur de l'AFPA, donc de l'Agence de formation professionnelle, lui donnant raison et disant que le prestataire n'avait pas respecté les règles de la GNU/GPL et l'a donc condamné en 2009. Et le deuxième cas, c'est Free, dans lequel il y a eu des auteurs de logiciels libres, parce qu'il faut savoir en fait que dans la plupart aujourd'hui des outils type Box, téléphone mobile ou autre, vous avez du logiciel libre. Et à l'époque, ces entreprises ne signalaient pas qu'il y avait du logiciel libre sous licence GNU/GPL. Et donc, des auteurs de logiciels libres avaient attaqué Free, donc en France. Et quand tu parles de quelqu'un de ton employé, négocier, c'est ça. En fait, l'objectif de ces auteurs, quand ils attaquent, c'est de faire respecter leurs droits. C'est pas forcément d'aller au procès pour que la personne, la structure soit condamnée, c'est de faire respecter leurs droits. Et dans le cadre de la discussion entre avocats, Free s'est rendu compte qu'ils avaient tort. Et donc, en fait, ils ont accepté de signaler qu'ils avaient des logiciels libres sous licence GNU/GPL dans les Freebox. Et c'est pour ça que donc il n'y a pas eu de procès final. Donc, ce terme de négociation veut dire simplement que Free s'est conformé au droit de la licence GNU/GPL choisie par les tutélaires de droit.
Oui, ce que j'appelle négociation, c'est quand on transige, c'est-à-dire que quand on a introduit une instance, donc il y a un procès, et puis on décide il apparaît inutile d'aller jusqu'au bout du procès, puisqu'on se met d'accord avant sur des termes et conditions qui conviennent à tout le monde, notamment le respect de la licence. J'ajoute une chose, en fait, en plus, ce qui est dommage, c'est que dans beaucoup d'affaires, en fait, respecter la licence, c'est extrêmement simple.
Oui,
il suffit souvent de publier un bout de code qu'on a récupéré, bon, parfois d'autres bouts de code, mais bon, on en a bénéficié aussi. Donc c'est d'autant plus simple. Donc c'est aussi, peut-être aussi pour ça qu'il y a assez peu d'enjeux. Et puis je pense que si on compare de ça il y a 10 ou 15 ans, c'était un gros mot, les logiciels libres à l'époque, en tout cas pour les juristes, bon, les gens n'avaient pas forcément la compétence et ça faisait plutôt peur, ce qui n'est plus le cas maintenant parce que la force des choses fait qu'il y en a partout, tout simplement. Donc les gens sont aussi un peu mieux formés et mieux éduqués, y compris et principalement les juristes.
Tout à fait, je voulais juste rappeler, après je vais passer la parole à Mélanie, que le cas Free, donc le cas AFPA et DU, c'était 2001-2009, j'ai dit, et Free c'est 2008-2011, hein. Donc finalement, ça fait il y a quelques années. Et juste avant de passer par Mélanie, j'encourage les gens qui, par exemple, ont une télé ou autre, de regarder deux fois, ou une box, par exemple, de regarder dans les conditions générales d'utilisation ou autre. Normalement, il y a les licences des logiciels libres sous GNU/GPL indiquées, donc que ce soit Orange, Freebox, etc., etc., ou même les télés aujourd'hui, je crois que c'est le cas. Donc je vous encourage à regarder, c'est instructif. Mélanie.
Oui, effectivement, on parlait d'éducation, c'est-à-dire qu'au départ, quand les licences libres ont commencé à être utilisées de façon générale, il y a une confusion sur l'idée que c'était libre de droit et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Or, une licence libre précise exactement ce que l'on peut faire. Alors, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut le faire à certaines conditions. Et c'est ce qui, finalement, a fini par être entendu par le grand public et notamment les entreprises.
Alors, on ne va pas avoir le temps de parler des licences libres dans le cadre d'autres types d'œuvres, mais ça sera l'occasion d'une autre émission. Est-ce que vous voulez faire une phrase de conclusion sur ce sujet? Donc, peut-être commencer par Olivier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non.
Non?
J'ai tout dit.
Mélanie?
Bien de faire l'expérience de lire une licence libre de A à Z.
Ce que sans doute pas grand monde a fait. Alors, en tout cas, je remercie donc mes deux invités, donc Olivier Hugo, avocat au cabinet Dune, et Mélanie Clément-Fontaine, qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le site de l'APRI, donc, vous avez des références avec notamment... Outre les références sur le site de la Fondation pour logiciels libres, vous avez des livres, dont notamment le livre de Mélanie. Il y a aussi le livre de Benjamin Jean, celui de François Pellegrini. Et je vais juste rappeler, enfin, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux pour différentes raisons, et notamment Mélanie, parce que tu es l'une des premières juristes, en 99 notamment, avec la publication d'un mémoire sous la direction du professeur Michel Vivant, sur justement l'étude de la GNU/GPL. C'est une première juriste à être intéressée à ce sujet et avoir un petit peu ouvert la voie voix positive sur l'interprétation des licences libres. Donc, merci d'être venu aujourd'hui.
Tu devais être un des premiers lecteurs de ce travail-là également.
Tout à fait. Alors, nous allons faire une pause musicale. Je ne sais pas où j'ai mis ma fiche. Elle est là, ma fiche. Donc, la pause musicale s'appelle « La peau de l'ours » et on se retrouve juste après.
Cause commune. Si j'avais su, j'aurais donné. J'finirais tout nu, le banni mis au plancher. La chute.
La peau de l'ours, je serai allé te le chasser à bout de course. Je suis sans ressources. La chute des cours, volume d'amour, percute mes jours, jaillit.
D'écouter La peau de l'ours, c'est en licence Creative Commons partage à l'identique. Alors je précise que ce morceau a été créé lors d'une journée de création musicale Zik Libre en Bib. Pas facile à dire, donc c'est la musique libre s'invite dans les bibliothèques, mais nous aurons l'occasion bientôt d'inviter une personne responsable de ce site qui promeut l'utilisation de musique libre dans les bibliothèques. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Nous allons aborder maintenant un sujet suivant, donc avec la chronique de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Sa chronique est intitulée « Le libre fait sa com ». Et la chronique a notamment pour objectif d'informer sur les actions de sensibilisation menées par l'April, mais aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir. Donc Isabella, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai pensé de interviewer Antoine Bardelli, qui est graphiste bénévole à l'April, qui participe au groupe de travail sensibilisation de l'April depuis longtemps. Je ne connais pas la date, donc on va lui demander. Et j'ai souhaité discuter avec lui de la genèse de l'Expo Libre 3, version 3, qui est l'Expo Libre qui est actuellement en ligne et téléchargeable et qui peut être aussi louée. Donc là, c'est la version la plus récente. C'est des panneaux en fait, qui expliquent le logiciel libre et ses enjeux au grand public. Voilà, donc pour vous montrer comment le groupe de travail sensibilisation justement réalise une œuvre de sensibilisation, bien évidemment sous licence libre. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, Antoine, tu es là?
Oui,
tu
as l'écoute. Bonjour.
Bonjour. Donc, voilà, je disais que tu es graphiste bénévole à Pril et que tu es très actif dans le groupe de travail sensibilisation. Depuis combien de temps tu contribues au groupe, à peu près?
Alors, je suis inscrit à la Pril. Enfin, je participe au groupe depuis 2011.
D'accord.
Enfin, si mes souvenirs sont bons. Hein,
non, ça fait...
Peut-être 2008.
En tout cas, ça fait longtemps et tu as été aussi animateur du groupe pendant 2 ans.
Ah oui, c'est ça. Oui, en fait, j'étais inscrit donc, dans le groupe. J'ai commencé à participer en 2008 et j'ai pris l'organisation du groupe sensibilisation en 2011.
Très bien.
Pour deux ans.
Oui, pour 2 ans. Et l'une des missions en fait importantes qui t'a été confiée, c'était justement la mise à jour de l'Expo Libre et donc la réalisation de la version 3, la version la plus récente. Et la question est pourquoi faire une version 3 vu qu'il y avait déjà une version 2? Quels étaient les objectifs?
La version 2, elle était très verbeuse. Il y avait beaucoup de contenu texte. Et puis, elle était quand même, les idées étaient quand même assez dispersées sur tous les panneaux. Donc, ça faisait un contenu qui était, comment dire, peut-être pas assez accessible au grand public. Donc, il y avait aussi des points un petit peu techniques qui étaient décrits en fonction des panneaux.
D'accord. En fait, j'y suis allée zioter, regarder cette ancienne version. Et effectivement, il y avait un contenu très, très bien écrit, mais qui était peut-être plus adapté pour un dépliant, pour un flyer, plutôt que pour une exposition, pour des panneaux accrochés à un mur qui ont pour but aussi d'attirer l'attention du public. Donc, l'objectif pour la version 3, c'était un peu d'épurer, de rendre plus lisible, de réduire le contenu, de travailler aussi sur les visuels. Et je vous invite à voir les visuels réalisés justement par Antoine sur le site de l'Expo Libre. Les références sont sur notre site. Et combien de temps a pris environ pour réaliser cette version 3? Il me semble que la gestation a été assez longue.
Alors en fait, on a repris la liste des panneaux en 2008. Donc ça a un petit peu pris du temps, on va dire.
Oui.
J'ai eu une proposition de modèle de panneau en 2010. Elle a été commencée réellement en 2015. Et après, effectivement, il y a des publications, je crois, fin 2015. Puis après, elle a été traduite en 2016 en anglais, traduite en espagnol en 2016 aussi, je crois. Peut-être publié en espagnol en 2017. Et ça, je suis pas tout à fait sûr pour la date de publication. Mais voilà, donc ça fait quand même 10 ans
de gestation. Comment ça s'explique? Comment cette longue gestation s'explique pour une œuvre de ce type?
Un projet comme ça, il faut la disponibilité de tous les intervenants, il faut des compétences mobilisées. Il faut mettre au point les textes, et après il y a des étapes de validation. Donc effectivement, après il faut réaliser, et puis après il faut mettre en ligne, voilà, etc. Donc c'est toutes des étapes qui sont très très longues.
En fait, toi tu étais en charge plutôt de la partie graphique, visuelle.
Oui.
Mais après il y avait des bénévoles, des personnes qui ont par exemple rédigé le contenu.
Oui.
Il y en a d'autres qui ont relu, il y en a d'autres qui ont fait des retours, des suggestions. Donc on va dire que tous ces allers-retours ont pris pas mal de temps. En sachant que le CA, le conseil d'administration aussi, doit intervenir à un certain point aussi pour valider ce qui est fait. Parce que c'est une œuvre quand même qui est sous licence libre. L'auteur est l'association April, donc il faut que ce soit cohérent avec les missions, la mission, les principes de l'association. Tu parlais de beaucoup de contributions. Quels sont les outils collaboratifs qui ont été utilisés pour faire participer toutes ces personnes?
Tout ce monde, déjà, c'est vrai qu'il y a quand même il y a plus de 20 contributeurs sur le texte, on va dire, au moins.
Pas mal.
C'est beaucoup. Enfin, sur la période, déjà, puisqu'il y a entre les rédacteurs et les traducteurs, les relecteurs, les correcteurs, bref, la validation après. Pour travailler sur tous ces outils, il y a trois outils qui sont essentiels. C'est les listes de diffusion, donc qui nous permettent d'échanger et de lancer les idées, d'avoir des retours. Et après, les deux outils essentiels, c'est le PAD, on va dire, qui est un logiciel en ligne qui permet de travailler à plusieurs textes. Et puis surtout, il y a le wiki de l'April, qui nous permet de commencer à hiérarchiser les idées et puis d'aller jusqu'à la version définitive du contenu. Bon, ça, je dirais que c'est trois outils essentiels.
Tout à fait. On va dire que le wiki, on commence à rédiger la page wiki quand on sait plus ou moins ce qu'on veut faire, parce qu'en fait le pad c'est plus intuitif, les personnes vont sur le site, ils ont juste à taper à préciser leur pseudo et après les personnes peuvent écrire, peuvent faire des commentaires, c'est très fluide, alors que le wiki c'est plus structuré, ça demande un petit peu de compétences en plus, mais nous vous invitons quand même à visiter le wiki de l'April parce que c'est pas finalement si difficile de contribuer aux pages, de modifier, de voir comment ça se passe. Et donc voilà, comme tu disais, la publication de l'Expo Libre version 3, donc la version actuelle, est arrivée en 2015. Donc bravo pour ce travail. On va rappeler que les panneaux de l'Expo Libre sont téléchargeables et donc il y a plein d'associations, mais pas que. Il y a aussi des bibliothèques, il y a aussi n'importe quelle structure, personne peut télécharger ces panneaux et les accrocher. Et c'est ça déjà fait dans plein de lieux en France.
Alors peut-être préciser que le site c'est expolibre.org. Et que sur l'album photo de l'April, donc photo.april.org, vous trouvez l'Expo Libre en action quelque part sur des bibliothèques, etc. Donc voilà. Mais le site de l'ExpoLibre.org, c'est expolibre.org. Vous pouvez télécharger les panneaux, comme le précise Isabella, et vous pouvez effectivement, certains sont en location.
Et vous pouvez, comme on l'a rappelé, vous pouvez adapter l'exposition à vos besoins, vous pouvez la personnaliser, c'est les droits que la licence libre vous accorde. Donc Antoine, est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre à propos de l'Expo Libre ou à propos de ton expérience pour la réalisation de cette œuvre?
Oui, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même des sources qui sont libres, ouvertes. Donc il y a deux langues. Rien n'empêche une nouvelle traduction ou l'évolution de cette exposition. Et c'est quand même l'avantage, c'est qu'on peut continuer, si on souhaite, à agrémenter cette exposition.
Petite question, Antoine. Tu as parlé des outils pour la rédaction des textes, mais quel outil as-tu utilisé pour la mise en page finale de l'exposition?
Alors, la mise en page, c'est deux logiciels qui ont été utilisés pour réaliser l'Expo Libre, c'est Inkscape pour les illustrations et Scribus pour la mise en page.
Deux logiciels libres, précisant.
C'est deux logiciels libres, oui. Et ça veut dire qu'on peut télécharger les logiciels et puis regarder comment ont été conçus les fichiers ou éventuellement les adapter.
Ce rappel très, très juste des logiciels qui ont été utilisés, ça me fait venir à l'esprit qu'effectivement l'Expo Libre de l'April a pu naître grâce au fait que la toute première version, qui ne s'appelait pas Expo Libre, ça s'appelait Vive l'informatique libre, si je ne me trompe pas, avait été produite par la Ligue de l'enseignement APITUX et l'association Linux Alpes, et c'était une œuvre publiée sous licence libre. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu faire une version 2 et puis une version 3.
Alors c'est vrai que la première version était sous licence libre, mais c'était réalisé sous un logiciel propriétaire, Illustrator à l'époque. Et c'est la deuxième version qu'on a pu faire une version 2. Et c'est, je crois, François Poulain qui s'en est occupé de la faire sur Inkscape.
Exactement. La licence libre dans les moyens légaux pour la jouissance de la liberté de modification. Mais après, il faut aussi les moyens techniques.
Voilà.
Parce que si on fait sur un format fermé, après, on est obligé d'utiliser un logiciel propriétaire qui le lise. Oui.
On est quand même obligé de soit de recommencer, soit d'avoir le logiciel en question pour transférer le contenu.
Alors, je peux parler sur la partie historique pour reboucler avec notre premier intervenant, Jean-Christophe Becquet. Donc, à l'époque, Jean-Christophe Becquet, donc de Linux Alp, a participé en fait à cette première expo. Et comme c'était la Ligue de l'enseignement, si je me souviens bien, qui a finalement fait la mise en page, ça a été le choix effectivement de la Ligue de l'enseignement à l'époque de faire en Illustrator. Mais effectivement, à partir de la version 2, grâce notamment au travail de François Poulain, autre bénévole à l'April, c'est passé dans un outil libre. Et ensuite, elle a été grandement améliorée par le travail à la fois sur les listes des membres bénévoles de l'April et de l'équipe salariée, et puis la mise en page finale, effectivement, d'Antoine Bardelli.
Voilà, donc je remercie Antoine pour être ici avec nous aujourd'hui, et merci pour tout ce que tu fais à l'April, et je repasse la parole à Fred.
Oui, je voulais juste en profiter parce que c'est on a peu l'occasion de voir Antoine vu qu'il habite dans une contrée très sympathique. Mais je voulais dire simplement une chose, c'est qu'en tant que délégué général de l'April, l'un de mes grands plaisirs en fait est de travailler avec des bénévoles de la qualité d'Antoine, parce qu'Antoine est, on l'a peut-être pas dit, je sais plus, est graphiste professionnel, hein, mais il intervient bénévolement pour l'April. Et non seulement c'est un mec sympa, mais en plus c'est un graphiste de talent, c'est un communicant de talent. Donc à chaque fois les idées qu'il nous donne ou les remarques sont pertinentes, il est disponible, il est réactif. Donc voilà, c'était un grand plaisir et je crois que c'est l'un des grands plaisirs de travailler dans le monde associatif, de bosser avec des bénévoles comme Antoine. Tu n'es pas le seul, mais tu es quand même là, dans le top du top, on va dire. Donc, voilà.
Je confirme.
Et on va citer donc ton site quand même, c'est bardeli.fr, sur lequel voilà, vous pouvez retrouver à la fois...
Un petit coup de pub en plus.
Bah, écoute, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein, tout à fait normal. Donc voilà, je voulais juste te remercier. Et je laisse la parole... Non, bah écoute, en tout cas merci Antoine et donc à bientôt, et bientôt d'ailleurs sur le site de l'April, vous aurez dans le cadre de l'émission juste avant les vacances, une nouvelle œuvre d'Antoine, mais vous attendrez un peu fin juin pour la voir, une d'illustration par rapport à nos podcasts. Bon, donc merci en tout cas Antoine et merci Isabella pour cette chronique.
Bonjour,
Le Libre fait sa com et on se voit le mois prochain pour la prochaine chronique.
Tout à fait.
Ok, on va passer un petit jingle musical. Alors, nous allons passer à la partie annonce. Donc, une annonce du jour, c'est Arte met vraiment les grands moyens pour faire connaître le logiciel libre, que ce soit, et aussi le partage du savoir libre, car Arte diffuse ce soir, en avant-première, en tout cas première diffusion, le documentaire de Philippe Borel, Internet ou la révolution du partage, donc qui est la version courte de son film La bataille du libre. Alors, je dis qu'ils mettent les grands moyens, parce que la diffusion, donc, mardi 7 mai 2019, est à 23h55. Donc, évidemment, bon, c'est férié demain, donc on peut peut-être un peu veiller tard, mais quand même, je pense que Arte aurait pu faire un effort pour une première diffusion, pour donner une heure de diffusion beaucoup plus sympathique et beaucoup plus accessible. Ceci dit, le documentaire est déjà disponible sur le site d'Arte en replay, même s'il n'a pas encore été diffusé, et ce jusqu'au 5 juin, donc je vous encourage, si vous pouvez le voir ce soir, sur Arte, mais sinon regardez sur le site de la chaîne, il n'y a pas besoin d'outils particuliers, un navigateur libre suffit, donc jusqu'au 5 juin, de mes mémoires ça doit durer à peu près une heure. Dans l'introduction on peut lire « Quand on prive les gens du savoir, ils ne le supportent pas, ils ont envie de hacker le système, et ce qu'il y a de bien avec l'informatique, avec les logiciels libres, c'est qu'ils peuvent le faire ». Donc voilà, je vous encourage à regarder ce documentaire. Comme je vous dis, il y a une version longue, La bataille du libre, qui dure 87 minutes. Il y a un certain nombre de diffusions qui sont faites en public en ce moment. Vous trouvez la plupart des références sur le site de l'agenda du libre, hein, agendadulibre.org. Et normalement, nous aurons Philippe Borel au courant du mois de mai pour voir une petite interview avec lui pour nous parler de ce projet. Dans les autres annonces, j'ai envie de souhaiter un bon anniversaire, un joyeux anniversaire à Next Impact. Next Impact, le site d'actualité et d'enquête en ligne qui fête ses 16 ans. On a Xavier Berne qui intervient, qui fait des chroniques régulières dans l'émission, qui d'ailleurs sera présent la semaine prochaine. Donc voilà, joyeux anniversaire aux équipes de Next Impact. Alors il y a des apéros April qui vont arriver en mai. Donc le prochain, c'est le 16 mai à Montpellier, le 17 mai à Marseille, à Paris, au local de l'April, c'est le 31 mai. Donc évidemment, vous êtes toutes et tous les bienvenus, même si vous n'êtes pas membre de l'April, pour participer à ces apéros. Et à Montpellier, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer d'ailleurs Antoine Bardelli, vu qu'il habite cette jolie ville. En mai, nos camarades d'Ubuntu France organisent l'Ubuntu Party à Paris, les 18 et 19 mai. Donc je crois de mémoire, mais je demande à Isa confirmation que nous aurons un stand de l'April. Donc vous pourrez rencontrer les joyeux membres de l'April, l'équipe. Et pour tous les autres événements, écoutez, vous allez sur le site donc de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Je regarde le temps, on n'a pas vraiment est-ce qu'on a le temps de diffuser la bande-annonce ? Non. Alors le générique vient de commencer, donc je vais simplement vous signaler que nous avons donc mis en ligne une bande-annonce pour l'émission qui dure 1 minute 30 pour la faire connaître, donc avec différentes voix. Vous reconnaîtrez ma voix, celle d'Isabella Vanni, celle de Étienne Gonu, celle de Vincent Calame et celle de Noémie Berger qui travaille au cabinet d'une avec Olivier Hugo. Donc n'hésitez pas à la diffuser, elle dure 1 minute 30, c'est la bande-annonce de l'April. Et pourquoi je voulais en parler, c'est que la semaine dernière on l'a diffusée et j'ai oublié de remercier PG. PG qui est un membre, une personne qui est sur le salon webchat de la radio et qui a fait le montage de l'émission, donc de la bande-annonce, donc je le remercie vraiment d'avoir fait ce montage. Alors notre émission se termine, Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc ma collègue Isabella Vanni, Olivier Hugo, Mélanie Clément Fontaine, Jean-Christophe Becquet qui était avec nous au téléphone, Antoine Bardelli et évidemment à la régie et à la réalisation Patrick Creusot. Vous retrouverez sur le site de l'April, donc april.org, une page consacrée à l'émission avec toutes les références, donc on va mettre à jour cette page après l'émission. La prochaine émission aura lieu mardi 14 mai 2019 à 15h30. Alors notre sujet principal portera sur le développement logiciel libre, donc avec une développeur, une développeuse et un développeur qui vont nous parler de ce métier fabuleux de développement logiciel. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc mardi 14 mai et d'ici là, portez-vous bien.
Cause Commune, toutes nos émissions en libre écoute, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.